VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui au sommaire. Les Libériens aux urnes ce mardi pour élire leur président parmi 20 candidats. La première femme présidente du continent quitte le pouvoir après 12 ans à la tête du pays.
Pendant les 12 années de sa présidence, on a vu peut-être une présidente de la République qui était beaucoup plus à la recherche de moyens de gérer le quotidien que de trouver vraiment des solutions aux problèmes des gens.
Coup de théâtre au Kenya, l'opposant Raila Odinga ne participera pas à l'élection présidentielle du 26 octobre après avoir obtenu l'invalidation du scrutin du 8 août dernier. L'opposition togolaise maintient la pression sur le pouvoir et elle compte manifester à nouveau la semaine prochaine. Le président indépendantiste catalan veut plus de temps pour dialoguer avec Madrid et propose de suspendre la déclaration d'indépendance. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les Libériens ont voté aujourd'hui pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue présidente en Afrique. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
En plus de leur nouveau président, les quelques 2 millions d'électeurs doivent renouveler les 73 membres de la Chambre des représentants. 20 candidats sont en lice pour la présidentielle. Parmi les favoris figurent le sénateur George Weah, légende du football, le vice-président Joseph Boakai, l'avocat Charles Brumskine, ainsi que les hommes d'affaires Benoni Ourey et Alexander Cummings. Un second tour est prévu si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour. Madame Sirleaf, prix Nobel de la paix en 2011, a salué un jour historique pour la consolidation de la jeune démocratie. La présidente sortante a appelé ses concitoyens à ne pas voter pour des raisons tribales ou religieuse, mais pour celui qui aura les capacités de rendre le pays meilleur. Elle les a exhortés à respecter le résultat des urnes. De nombreux Libériens portent au crédit de la présidente sortante d'avoir maintenu la paix. Toutefois, beaucoup attendent de son successeur une amélioration des conditions d'existence d'une population qui vit dans la grande pauvreté.
L'opposition togolaise ne baisse pas la garde. Elle annonce l'organisation d'une nouvelle marche le 18 octobre pour demander une réforme constitutionnelle après 2 mois de mobilisation populaire contre le régime de Faure Gnassingbé. Le gouvernement compte organiser un référendum pour faire adopter une réforme constitutionnelle prévoyant notamment une limitation à 2 mandats présidentiels, ce que l'opposition demande depuis plus de 10 ans. Mais ce projet du gouvernement n'est pas rétroactif. Au Kenya, le remake de la présidentielle prévue le 26 octobre se fera sans l'opposant Raila Odinga. Il a annoncé son retrait après avoir pourtant obtenu l'annulation du scrutin du mois d'août. Le point avec Claire Morin-Jubourg.
Dans une conférence de presse à Nairobi, Raila Odinga, leader de la coalition NASA, a affirmé qu'il renonçait à se présenter à la présidentielle, et ce, dans l'intérêt du peuple kenyan.
This statement is the National Superalliance Coalition statement on the withdrawal of the candidature of Right Honorable Raila Amolo Odinga.
Cette déclaration marque le retrait de la candidature de Raila Amolo Odinga.
Une décision surprenante car la Cour suprême a invalidé le 1er septembre la réélection de M. Kenyatta à la demande de l'opposition qui a toujours conditionné sa participation au nouveau scrutin du 26 octobre à une réforme en profondeur de la commission électorale. Craignant que cette élection soit pire que la précédente, M. Odinga estime que le scrutin doit être purement et simplement annulé.
Le vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui était aussi jusque-là ministre de la Justice, a estimé que le remaniement relevait du seul plaisir du chef de l'État. M. Mnangagwa a été remplacé à ce ministère par un fidèle du régime. Il a toutefois été maintenu à la vice-présidence. Surnommé le crocodile, Emmerson Mnangagwa est considéré comme un des dauphins potentiels de Robert Mugabe, âgé de 93 ans. Le président malgache Herry Rajanampian appelle la population au calme face à l'épidémie de peste qui a déjà causé 45 morts dans le pays. Il assure que les autorités ont les armes nécessaires pour gagner la guerre contre la maladie. On est dans une guerre et aujourd'hui, je crois qu'on a les armes et les munitions pour combattre cette épidémie, a-t-il lancé lors de sa première intervention publique depuis le début de l'épidémie à la fin du mois d'août. Un Somalien de 22 ans a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des meurtres et tortures commis en Libye. Ousmane Moutamed avait été arrêté fin 2016 dans un centre d'accueil de Milan en Italie, où une quinzaine de migrants menaçaient de le lyncher après l'avoir reconnu comme l'un des tortionnaires leur ayant extorqué de l'argent dans un camp à Bani Walid dans le désert libyen. Il a été reconnu par des victimes alors qu'il s'était fondu dans la masse des migrants arrivés en Italie. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les Libyens au compromis et à trouver un consensus pour un processus politique inclusif. La Libye est déchirée entre pouvoirs politiques rivaux depuis la chute de la dictature de Muammar Kadhafi en 2011. Un accord interlibyen a été signé fin 2015 au Maroc sous l'égide des Nations Unies et un gouvernement d'union avec Saïd Al-Farage comme premier ministre a été formé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, le président séparatiste catalan a prononcé un discours devant le Parlement régional avec une heure de retard et dans la confusion ce mardi. Carles Puigdemont a demandé aux parlementaires de donner une chance au dialogue avec Madrid. Donc, pour le gouvernement espagnol, une médiation avec Puigdemont n'est pas envisageable. Pape Moussa Ndiaye est résident à Barcelone. Il a même pris part au référendum il y a quelques semaines. Vous êtes en direct sur VOA Afrique. Alors, Pape Moussa, dites-nous ce que le président séparatiste catalan a dit devant les parlementaires.
Eh bien voilà, Abdourahmane, ici le président Carlos Puigdemont a vraiment fait une historique un peu de ce qui s'est passé de Catalogne avec l'Espagne. Et donc les tentatives qui ont essayé depuis plus d'une dizaine d'années pour ne pas aboutir à ce qu'on est en train de discuter maintenant, le problème de l'indépendance de la Catalogne, est maintenant vraiment exposé à tous les Espagnols, les Catalans et tout le peuple. Tous les peuples du monde qui nous écoutent, et donc les origines du problème. Et maintenant, en revenant sur le référendum qui vient d'être effectué le 1er octobre passé, donc il a exposé clairement que le si a gagné sur le non. Et pour autant, donc, le peuple proclame ou bien réclame, disons, donc, la République catalane.
Il demande une chance. De négocier, donc, mais il ne renonce pas vraiment à l'indépendance, c'est bien ça?
Exactement, il demande une chance donc au Parlement catalan de pouvoir ouvrir les négociations avec le gouvernement central de M. Rajoy et pour voir si on peut arriver quand même à trouver une solution à l'amiable vu au moins pour améliorer le statut d'autonomie, d'autodétermination catalan qui depuis une dizaine d'années est toujours dans les discussions et n'a jamais abouti à trouver un consensus.
D'accord. Merci beaucoup, Pape Moussa Ndiaye, depuis Barcelone.
On continue.
Voilà. Merci, au revoir. Donc, on continue cette édition. Les officiels turcs ne recevront plus l'ambassadeur des États-Unis en Turquie. C'est ce qu'a indiqué le président Recep Tayyip Erdogan. Les relations entre la Turquie et les États-Unis, deux pays partenaires au sein de l'OTAN, connaissent de fortes tensions depuis l'inculpation pour espionnage la semaine dernière d'un employé turc du consulat général américain à Istanbul. Des incendies continuent de ravager le nord de la Californie dans les régions viticoles de Napa et Sonoma, faisant 10 morts, détruisant des milliers d'habitations et forçant plus de 20 000 personnes à fuir. Les précisions de John Linden.
Selon les pompiers de Californie, environ 32 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes depuis dimanche dans cette région touristique du nord-ouest des États-Unis. Au moins 10 personnes ont perdu la vie. En moins de 24 heures, plus de 18 feux ont détruit plus de 2 000 habitations et menace des milliers d'autres, selon Jerry Brown, gouverneur de la Californie, dans une lettre adressée au président Donald Trump. Il lui a demandé d'émettre une déclaration de catastrophe naturelle pour débloquer des aides fédérales, vu la gravité et l'ampleur des incendies. Des ordres d'évacuation ont été diffusés et les incendies ont par ailleurs entraîné la fermeture d'autoroutes et de routes locales. L'ouest des États-Unis a déjà subi début septembre des feux de brousse et des incendies qui avaient entraîné des milliers d'évacuations. La région est particulièrement vulnérable à cette époque de l'année où les pluies sont rares et les vents violents.
Les assurances de l'ONU à propos des missions de maintien de la paix dans le monde, elles seront totalement financées malgré une coupe budgétaire importante annoncée il y a quelques mois. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le président de l'Assemblée générale de l'ONU. Sous la pression des États-Unis, les États membres de l'ONU ont accepté en juin de réduire de 600 millions de dollars le budget des opérations de maintien de la paix qui était de près de 8 milliards de dollars. Israël va faire construire plus de 3700 logements de colonisation en Cisjordanie occupée à Hébron pour la première fois depuis des années. C'est ce qu'a annoncé un officiel israélien sous couvert de l'anonymat. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique sur le continent, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Jacques Aristide.
La reprise économique se confirme en Afrique subsaharienne. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 2,6% en 2017 après un taux d'1,4% l'an dernier à cause du bas niveau des cours des matières premières. Le FMI estime que le produit intérieur brut des 45 pays de la région devrait continuer à progresser l'année prochaine à hauteur de 3,4%, mais l'institution ne manque pas de souligner la fragilité récurrente des deux moteurs économiques du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria a été affecté par la baisse des prix du pétrole, alors que l'Afrique du Sud est confrontée à l'incertitude politique qui pèse sur la confiance des consommateurs et des investisseurs. Le groupe nucléaire français Areva procédera à des licenciements l'an prochain dans une de ses filiales au Niger. À La Somère, dans le nord nigérien, plusieurs centaines de salariés seront concernés. Areva évoque les prix très bas de l'uranium à 20 dollars la livre et indique que La Somère doit adapter son organisation industrielle et ajuster ses effectifs. De telles mesures incontournables, d'après le groupe, permettront à La Somère d'éviter la faillite. Areva exploite l'uranium depuis près de 50 ans dans le nord du Niger. La Banque centrale d'Éthiopie a dévalué la monnaie du pays de 15% pour stimuler les exportations qui ont pris du retard. La banque a également augmenté son taux directeur de 5 à 7%.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pino. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Fin de la belle histoire syrienne dans la course à la qualification.
L'Australie a mis fin au rêve du mondial 2018 de la Syrie, pays ravagé, vous le savez, par la guerre. Un score de 2-1 obtenu en prolongation lors de ce pré-barrage retour de la zone Asie. Il y avait un partout à la fin du temps réglementaire, 2-1. Et c'est le vétéran australien Tim Cahill, 37 ans, qui a inscrit le but meurtrier à la 109e minute. Coup de chapeau quand même aux Syriens.
On joue aussi en Europe ce soir.
Le Portugal compte sur son homme providentiel Cristiano Ronaldo pour enlever au finish un billet direct pour le Mondial 2018 en battant la Suisse à Lisbonne. Coup d'envoi 18h45, temps universel. On rappelle qu'hier, la Serbie et l'Islande ont assuré leur qualification. Les Serbes ont battu la Géorgie 1-0 et surtout l'Islande qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour une Coupe du Monde grâce à sa victoire sur le Kosovo. C'était à Reykjavik, 2-0.
Et le verdict va aussi tomber en Amérique latine.
Le Brésil a son billet pour le Mondial, mais pas l'Argentine, finaliste de l'édition 2014. La bande à Lionel Messi est très mal embarquée, même pas en position de barragiste. Et le dernier match, la nuit prochaine, en Équateur, à Quito, 2800 mètres d'altitude. On rappelle que dans la zone âme sud, l'Uruguay, le Chili et la Colombie sont bien partis. Le Pérou est pour l'heure barragiste.
Bilan mitigé pour l'Afrique du football à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Inde.
Après sa défaite face à l'Iran lors du premier match, la Guinée a fait match nul ce matin en Inde, 2-2 face au Costa Rica. Fangetouma et Soumé, les buteurs pour le Séli National. Le Niger a lourdement chuté contre l'Espagne, défaite 4-0 pour le MENA. Et puis le Mali jouera sa qualification jeudi contre la Nouvelle-Zélande et le Ghana face à l'Inde.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. L'heure est au bilan pour Ellen Johnson Sirleaf, alors que les Libériens élisent ce mardi un nouveau président. Élue en 2006, Madame Sirleaf est entrée dans l'histoire comme la première femme chef d'État en Afrique. Devenue prix Nobel de la paix en 2011, elle jouit d'une glorieuse réputation sur l'échiquier international. Au Libéria, toutefois, certains se disent déçus de ses 12 années au pouvoir. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Ibrahima Kane. Il est directeur de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine.
On aurait pu penser qu'étant la première femme africaine à diriger un pays, elle aurait apporté une certaine touche. Mais pendant les 12 années de sa présidence, on a vu peut-être une présidente de la République qui était beaucoup plus à la recherche de moyens de gérer le quotidien que de trouver vraiment des solutions aux problèmes des gens. Et cela déçoit quelque peu parce que elle avait le pédigré pour le job, elle est une ancienne de la Banque mondiale, elle connaissait les problèmes économiques du continent avant même de prendre les rênes du pays. Elle a quand même aidé à gérer la transition de la guerre civile que le pays avait connue à une société beaucoup plus évoluée, à la recherche vraiment d'une dynamique de l'état de droit et autres.
D'après vous, aurait-elle pu mieux faire en matière de lutte contre la corruption, par exemple?
Ah oui, énormément. Et la quasi-totalité des critiques qui étaient formulées à l'encontre de son régime, c'était le fait qu'elle a laissé faire, que la corruption est devenue endémique dans le pays et qu'elle n'a même pas pu mettre en place les règles strictes, les règles qui auraient vraiment permis à l'État de gérer ce genre de situation. Et ça, c'est quand même surprenant de la part de quelqu'un qui était venu pour remettre le pays sur les rails. Ça, c'est vraiment décevant.
Mais contrairement à d'autres dirigeants en Afrique, elle n'aura pas voulu modifier la constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir. Faut-il quand même mettre à cela à son crédit?
Je ne sais pas quoi dire parce que elle l'aurait voulu, aurait-elle pu le faire? C'est une question parce que vous savez que la constitution libérienne est l'une des plus anciennes du continent. C'est une constitution un peu copiée sur le modèle américain qui est difficile à manipuler. Mais dans le même temps, moi, la seule chose importante que je reprocherais à Shirley, c'est le passage de son premier à son second mandat. Il y a eu cette guerre civile dans le pays. Une commission nationale de réconciliation avait été créée. Et une des recommandations de cette commission avait été de demander à Mme Shirley de ne pas se présenter. Sur la base du soutien qu'elle aurait apporté à Charles Taylor, car Charles Taylor était un chef de guerre. Elle n'a pas écouté. Et ça, de mon point de vue, c'était vraiment un mauvais message parce que les leaders politiques doivent quand même respecter les décisions de certaines institutions, surtout pour un pays comme le Libéria qui sortait d'une guerre civile. Bon, maintenant, cela est derrière nous. Gardons d'elle quand même l'image de quelqu'un, de la première femme qui a géré un pays, qui a fait avancer la cause. Donc, nous prions tous pour que cette élection se passe dans d'excellentes conditions, que la transition soit parfaite pour que maintenant, en tout cas en Afrique de l'Ouest, on puisse dire que les pays peuvent sortir de la crise, que donc seule la démocratie peut aider les pays à avancer et que les Libéria pourraient être dans ce cas cité un exemple.
C'était Ibrahima Kane, directeur de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine. En Centrafrique, quatre groupes armés qui ont toujours opéré dans le centre-est du pays ont signé hier un accord de cessation d'hostilité à Ipi. Il s'agit de l'UPC d'Ali Drassa, du FPRC d'Abdoulaye Hissène du MPC d'Al-Khatim et une nouvelle branche d'Antibalaka, la RDR. Le point avec bienvenue Marina Moulougnato du réseau des journalistes des droits de l'homme, jointe au micro de Félix Yapassé-Zembro.
Exactement, les quatre groupes armés, à savoir le FPRC, l'autre aile de FPRC dirigée par Abdoulaye Hissen, le MPC de Al-Khatim, UPC de Ali Darassa et RDR, une autre aile des Antibalaka. Ils ont signé l'accord, c'était hier dans la matinée, dans la ville de Ipi, où la présence d'Abdoulaye Hissen est signalée depuis plus d'une semaine déjà.
Que dit cet accord?
Ce qui a été dit, ils vont commencer d'abord le démantèlement des barrières qui ont été érigées par les groupes armés sur l'axe Ipi-Bria, y compris les axes qui mènent dans les villages qui entourent la ville de Ipi et dans le centre du pays en général. Et puis, ils vont discuter d'abord avec les groupes armés afin de démanteler ces barrières-là pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Et aussi, Abdoulaye Hissen a montré sa bonne volonté d'œuvrer à partir de maintenant pour la paix et le développement.
Et cet accord est-il effectif sur le terrain?
Ils ont signé l'accord seulement hier. C'est maintenant qu'ils vont commencer à mettre en application cet accord. La preuve en est que ce matin, j'ai eu Abdoulaye Hissen au téléphone qui m'a fait savoir qu'ils vont commencer l'opération de démantèlement des barrières ce matin. Donc, attendons de voir dans 2 ou 3 jours pour voir si l'accord est vraiment effectif.
Et comment a réagi la population après la signature de cet accord?
Auparavant, lorsqu'Abdoulaye Hissen était arrivé dans la ville, la population était en débandade. Tout le monde était inquiet. Mais après la signature, puisqu'ils ont constaté plus d'une semaine qu'il est là, il y a toujours le calme qui règne dans la ville et tout, la confiance qu'il a pu placer envers la population, c'est le pardon qu'il leur a demandé pour leur montrer que l'heure n'est plus pour le moment au conflit, à la guerre. C'est le temps de faire le pardon, de se réconcilier et autres. Mais depuis plus d'une semaine, je vous rappelle que la ville de Ipi est calme malgré la présence d'Abdoulaye Hissen et ses hommes. La population aussi attend de voir la suite de cet accord.
Qu'en sera-t-il pour les autres villes de la région du centre-est de la République centrafricaine?
Pour les 4 groupes qui ont signé cet accord, leur objectif n'est pas de rester seulement dans le centre du pays. Donc, ils veulent d'abord rétablir la paix au centre du pays, précisément à Ipi, là c'est Ipi et les villages environnants. Et puis, ils vont s'étendre dans la Waka et les autres régions où la présence des hommes en armes est signalée.
C'était bienvenue Marina Moulougnato du réseau des journalistes centrafricains des droits de l'homme.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Nous t'obligerons à avouer, torture et détention militaire illégale au Rwanda. C'est le titre du dernier rapport de Human Rights Watch, incriminant une nouvelle fois Kigali. Cette fois, l'organisation accuse l'armée rwandaise d'arrêter illégalement et de torturer des détenus en recourant à des passages à tabac, des asphyxies, des simulacres d'exécution et des décharges électriques. Human Rights Watch répertorie 104 cas. Morgane Guerrier a joint Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch.
Les personnes qui ont été ciblées étaient souvent accusées d'être membres, de voir collaborer avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, un groupe armé majoritairement Hutu rwandais basé dans l'est de la RDC Congo. D'autres ont été accusés d'avoir collaboré avec le Congrès national rwandais, le RNC, un groupe d'opposition en exil, et encore d'autres ont été accusés d'avoir collaboré avec Victoire Ingabire, qui est président des Forces démocratiques unifiées, les FDU Inkingi, un parti de l'opposition interdit au Rwanda.
Alors, face à vos accusations, que répond le gouvernement?
Nous avons à plusieurs reprises écrit au gouvernement rwandais demandant de réponse à nos recherches. Malheureusement, on n'a pas reçu de réponse. Cependant, le gouvernement a affirmé publiquement que, selon eux, la détention non officielle n'existe pas au Rwanda.
L'objectif des tortures, c'est notamment de faire signer de fausses déclarations, c'est ça?
Oui, et souvent les détenus nous ont dit qu'à la fin, ils ont signé des fausses déclarations parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la torture ou ils pensaient qu'ils allaient mourir.
Alors, il s'agit d'un véritable système, hein, si on se fie à votre rapport, puisque vous dites que la justice ignore les plaintes des personnes qui disent avoir été détenues illégalement et torturées.
Les détenus étaient d'abord dans ces centres de détention illégales non officiels et c'est là où ils ont été torturés. Et des fois, par la suite, ils ont été transférés à la justice et au centre de détention officiel. Et souvent, quand ils sont arrivés, ils ont reçu des instructions de ne pas parler de ce qui s'est passé avant. Mais malgré ça, des fois, des détenus ont pris le courage de dénoncer le maltraitement, la torture qu'ils ont subi devant des procureurs et des juges quand le procès a commencé. Mais dans tous les cas que nous avons documentés, les juges et les procureurs ont ignoré ces plaintes et il n'y avait aucune enquête.
Et vous dites également, il me semble, hein, dans le rapport, que les autorités rwandaises vont chercher ces personnes jusqu'en RDC ou même au Burundi.
La plupart ont été arrêtées au Rwanda, mais il y avait des cas de personnes qui ont été arrêtées d'abord au Congo ou au Burundi et puis transférées au Rwanda où ils étaient mis dans ces centres de détention militaire.
C'était Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Le gouvernement rwandais a indiqué qu'il ne répondrait plus au rapport de Human Rights Watch accusant l'organisation d'avoir un agenda contre le Rwanda. Destination les Grands Lacs pour parler de la Journée mondiale de la santé dans la santé mentale dans le Nord Kivu. L'unique structure sanitaire spécialisée fonctionne difficilement sans même une ambulance. Traumatisée, stressée ou encore droguée, chaque mois environ 150 nouveaux cas sont enregistrés. Ils sont tous accueillis dans un hôpital géré par l'Église catholique où l'on retrouve le seul médecin psychiatre de toute la province. Charlie Kasereka vous promène dans le quartier de l'ouest de la ville de Goma, le seul refuge pour tous les patients souffrant de maladies mentales.
Ici, en moyenne, 15 à 25 nouveaux cas sont enregistrés chaque semaine et ces patients viennent souvent des territoires lointains, dans des villages où les conflits font encore des victimes, mais depuis plus de 20 ans maintenant. Jacob Kazadi est le directeur de ce centre. Il essaie de nous expliquer. Dans les pavillons où sont hospitalisés les cas les plus difficiles, nous retrouvons Nastasie, la trentaine, mère de 4 enfants, avec beaucoup de difficultés pour s'exprimer. Elle essaie tout de même de nous expliquer comment elle est arrivée ici.
Ce qui a fait que je puisse tomber malade, j'étais au niveau de l'école où je travaillais. Moi, on ne m'avait pas donné assez crédit. Moi, je m'étais demandé pourquoi c'est moi toujours que vous faites des mal comme ça. Et pourtant, nous sommes tous les enseignants. J'ai commencé à penser beaucoup et c'est ce qui a fait à ce que j'arrive ici à l'hôpital de la santé mentale.
La bonne santé à milieu de travail, c'est le thème choisi cette année par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les nombreuses croyances qui existent dans la région font que la société regarde les malades mentaux avec mépris. Par ignorance, certains malades sont dirigés vers les chambres de prière, au merci des pasteurs ou chez les tradis praticiens, ce qui ne facilite pas les spécialistes qui reçoivent les patients trop tard au stade avancé de la maladie. Docteur Polepoli est le seul spécialiste psychiatre de la région très sollicité. Dans les centres, certains sont même abandonnés par les membres de leur famille quand la charge devient trop lourde. Le directeur Kazadi nous en parle ici.
Allô.
Les spécialistes dans les domaines pensent que les conflits récurrents dans la région, chômage, drogue et alcool, font partie des grandes causes de cette maladie et la santé mentale est considérée aujourd'hui comme les problèmes de la santé publique. Charlie Kassere, Kadepou Goma pour VOA Afrique.
La fin de cette édition réalisée par Georges Léonard Sagnon, à la console Bill Barbeau, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.